Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast On s'en fout, le podcast où l'on parle de tout sauf de football, mais toujours avec un acteur, une actrice du monde du football. Aujourd'hui, c'est une dame que nous accueillons, mérite sportive vaudois notamment, présidente du FC Yverdon Sport Féminin, grande voyageuse, ancienne joueuse professionnelle. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Linda Vialat. Bonjour Linda.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, ça va très bien. Bon. Alors juste une petite rectification.
Rectifie directement.
Présidente d'Yverdon Féminin, FC Yverdon Féminin.
Il n'y a pas le sport. Présidente d'Yverdon Féminin.
Voilà.
C'est vrai que les deux entités sont différentes.
Oui, oui.
Dans beaucoup de clubs, finalement, on a vu récemment Saint-Gall, hein, sauf erreur, qui a intégré le FC Saint-Gall version masculine. Et, dans certains clubs, bah, les deux entités, hommes-femmes, sont séparées. Linda, j'aimerais revenir un peu sur tes débuts, sur ton enfance, sur quel type d'enfant tu étais. Je crois que tu as grandi dans la région vaudoise, Yverdon, Grandson, quelque chose comme ça. Et comment ça se passait dans ta famille, à l'école, etc. Un peu revenir, un petit flashback en arrière.
Ben, bon, voilà, moi, je vivais dans une famille on était trois enfants. J'étais l'aînée. Et puis, mon père travaillait dans l'entreprise de mon grand-père, qui était Monsieur Beatti. Et ma maman était femme au foyer. Elle a travaillé dans l'entreprise. Elle a travaillé aussi un petit peu comme dans des associations de services. Comme ça. En plus, elle était directrice des écoles à Grandson. Et puis, autrement, mon enfance, ben voilà, on avait le jardin, il y avait le terrain de foot des Tuileries de Grandson qui était à 100 mètres. Donc, voilà, le jardin, le foot, ça a toujours été. J'ai toujours fait du foot, toujours, toujours. Avec mes frères, avec les voisins, avec les copains d'école. Voilà. Il n'y avait qu'une chose que je voulais faire, c'était du foot.
Ta première rencontre avec un ballon de foot, c'était à quel âge alors?
À 6 ans, comme mon frère aîné, on est du même jour, mon frère Bruno qui a joué Yverdon Sport. J'avais 6 ans, j'avais demandé des souliers de foot pour mon anniversaire.
Et tu les as reçus?
Oui, je les ai reçus, bien sûr.
Quel fantastique cadeau. Et du coup, la première chose, tu as déballé ton cadeau, tu les as mis et t'es parti, je pense.
Eh ouais, exactement. Après, bon, on attendait le petit frère, donc on n'a pas trop profité ce jour-là.
ton papa, sauf erreur, était président, hein, de Grandson, c'est ça,
le club? Oui, il était président du FC Grandson. Il a joué dans les années 58, 60, 62 à Yverdon Sport. Et puis après, il était joueur, entraîneur-joueur à Grandson, au FC Grandson Tuileries. Et puis après, il était président pendant longtemps. Oui.
Et sauf erreur, ta maman aussi, je crois que c'était plutôt échalon, quelque chose.
Voilà, comme il n'y avait pas, on pouvait pas jouer avec les garçons, hein, donc les filles pouvaient pas jouer avec les garçons. Donc, dans le petit fascicule de la Vaudoise qui était chaque année était donné au club, dans les clubs, il y avait le nom de toutes les équipes. Et un jour, en feuilletant ce petit fascicule, on a trouvé que à Échalon, il y avait une équipe féminine. Alors, ben voilà, j'ai refermé le petit livre, on a regardé, puis dans les jours qui ont suivi, il fallait absolument aller à Chalon.
On parle de quelle année?
J'avais 14 ans, donc c'était en 72.
En 70, ouais, dans les années 70.
72, 73. Et puis, ben voilà,
ça nous ramène à une cinquantaine d'années de maintenant.
Exactement.
Ouais. Et donc, c'était les prémices du foot féminin, de cette ouverture sur le foot féminin en Suisse. À ta connaissance, à l'époque, il y avait d'autres institutions, clubs, etc., qui faisaient la même démarche?
Dans le canton de Vaud, je ne sais pas, je pense que Chalon peut-être était un des premiers clubs. Après, sur Renan, hein, il y a toujours eu un club à Renan, mais je ne me souviens pas de l'année de fondation du club de Renan. Mais je pense que une des premières équipes vaudoises, c'était le FC Chalon, où il y avait une équipe féminine. Après, ben, il y avait plusieurs équipes romandes, parce qu'il y avait une équipe à Genève, après il y a eu une équipe à Renan, il y a eu une équipe à Combremont. Il y avait pas mal d'équipes romandes.
Ok, très bien.
Parce qu'en fait,
Revenons.
le football féminin est un peu parti de la Romandie, puisque
C'est
Madeleine
vrai.
Boll, qui était la joueuse emblématique suisse de la Romandie. Et son papa était président de la Ligue féminine suisse. Et en fait, il y avait beaucoup de clubs en Suisse romande. Après, bah, ça a un petit peu changé, mais voilà.
Revenons sur ta période d'école. Sauf erreur, tu étais une enfant un peu dissipée. J'ai cru lire ça sur Internet que pas toujours, tu n'écoutais pas toujours très bien. Est-ce que c'est
Non,
le cas?
j'aimais pas tellement l'école. Non, j'aimais pas tellement l'école. Ben, disons, je pense que j'avais de la facilité, mais ça me plaisait pas l'école. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était sortir de l'école et puis aller taper dans le ballon avec les copains.
Et pour quelle raison ça te parlait pas à l'école? Qu'est-ce qu'il y avait qui c'était un univers peut-être aussi trop masculin, trop, je sais pas,
Non,
juste.
tranquille, mais par rapport à ça, je pense que c'est aussi par l'inégalité, parce que moi j'étais une fille, j'adorais le foot, mais quand c'était l'heure d'aller faire du sport, ben, nous les filles on faisait l'heure de couture et de tricot, et puis les garçons ils partaient au terrain faire du foot. Alors déjà là, ça commençait à l'histoire sur l'égalité dans le sport et dans mon sport, je pense qu'elle est partie de là. Je les regardais, je pleurais en les regardant partir s'amuser au foot au terrain.
Et tu te
Et nous, on
disais à ce
était avec nous, les
moment-là,
filles, on était en train de faire de la couture.
c'est très cliché, mais j'arrive à l'imaginer très bien que même moi qui suis né en fin des années 70, mais dans les années 80, enfin 80 ou 90, il y avait encore ce clivage homme-femme à l'école, ben voilà, pour les travaux de couture, l'économie familiale, ce qu'on appelait un peu les tâches ménagères, etc. Et on disait, ben voilà, ça c'est un métier de fille, ça c'est un métier de garçon, ça c'est un sport de fille, de garçon, etc. Et on ne pouvait pas tellement passer de l'autre côté. Je me rappelle qu'un de mes camarades, j'avais 10 ans, il faisait du patinage artistique. Et qu'est-ce qu'il a souffert
Ah oui, bien sûr.
de notre regard? Parce que moi, pareil, j'avais le même regard que les autres, j'étais un petit garçon. Pas très différent des autres, mais il faisait un sport de fille et il était différent du coup. Il y avait très peu d'inclusion, ce qui heureusement, même si c'est pas parfait maintenant, commence à changer.
Tout à fait.
Je sais que
On lutte pour ça.
tu te, c'est ce que j'allais dire, tu te bats beaucoup pour ce genre de choses. Quand tu as grandi après l'école obligatoire, quel a été ton cursus?
On faisait des stages, des choses comme ça. On allait aussi faire des tests pour savoir qu'est-ce qu'on aimerait faire dans notre vie professionnelle. Moi, j'ai toujours
Tu
voulu
disais
travailler à
foot.
l'hôpital.
Ah.
Toujours. C'était comme pour le foot, ben voilà. Je suis entrée en stage à l'hôpital d'Yverdon comme aide. J'avais 17 ans. Et puis, ben, à 18 ans, je suis entrée à l'école d'infirmière assistante à Morges. J'ai fait le cursus c'était 2 ans. Après, j'ai travaillé, je suis partie en voyage 2 fois. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelait la passerelle pour devenir infirmière soins généraux
D'accord.
à Champ-de-Pierre, à Lausanne. Et puis,
Pourquoi cette
depuis.
direction infirmière? Qu'est-ce qui, c'est, je sais pas, l'amour des gens ou qu'est-ce, Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce champ professionnel qui est un peu particulier quand même?
Oui, j'aimais bien le contact avec les gens. Je pense prendre soin de l'autre. Je pense que c'est aussi en moi, ça. Et puis travailler en équipe. Hein. C'est comme une équipe de foot, une équipe dans les soins. Voilà. C'est être ensemble, faire les choses ensemble. Par exemple, je pourrais pas. J'ai toujours travaillé à l'hôpital. Je pourrais pas travailler comme infirmière indépendante ou infirmière en soins à domicile où on travaille plus seul. J'ai besoin de travailler en équipe. L'hôpital, c'est parfait pour ça. C'est vraiment.
J'imagine. Qu'est-ce que tes parents et frères et sœurs ont pensé à ce moment-là Alors, je ne sais pas de quelle compagnie ton papa avait. J'imagine que c'était quelque chose dans travail de chantier.
Oui, voilà, oui. On a l'entreprise de génie civil et bâtiment aux Tuileries.
D'accord. Et quand tu leur dis, bah, moi, c'est aller à l'hôpital, être infirmière, comment est-ce qu'ils ont entendu ça?
C'était comme pour le foot, disons.
Pas eu le choix.
Et voilà, non, tu aimes le foot, fais du foot. Tu aimes aller travailler à l'hôpital, tu vas travailler à l'hôpital. Pour ça, une chance fantastique avec mes parents, ouverts à faire que leurs enfants fassent ce qu'ils ont envie de faire,
Et
à être ce
c'est
qu'ils.
peut-être rare aussi à cette époque-là, parce que moi, en ayant grandi après, je constatais que ce n'était pas facile de faire ce qu'on voulait et d'avoir une ouverture parce qu'on était dans un monde quand même assez fermé, contrairement au monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec cette ouverture qui est à outrance et qui n'est pas forcément bonne non plus. Mais c'était une chance, je pense, que tu aies eu des parents ouverts comme ça, effectivement.
Ah oui, fantastique, non, c'est sûr que voilà, une chance extraordinaire d'être là. Après, je dirais que aussi, je pense aussi, ben, mon père, ben, c'est un passionné de foot, donc il était tout content que même sa fille fasse du foot. Et puis ma maman, je pense que elle n'avait pas fait vraiment un cursus professionnel, donc je pense que le fait que j'ai envie de faire un métier dans le soin ou autre chose, je pense que ça, c'était très important. Voilà, elle avait mis l'accent sur sa famille. Après, ben, elle a travaillé dans l'entreprise familiale. Donc voilà, mais elle a pas fait vraiment de métier. Donc ça, je pense, ça lui a manqué. Et puis, que si elle avait peut-être eu la chance que moi j'ai eue, comme eux, ils ont été avec moi, elle aurait été chef d'entreprise, donc probablement la chef d'entreprise de l'entreprise familiale.
Bien
Mais à
sûr.
l'époque, ça ne se faisait pas.
Bien sûr, toujours ce clivage homme-femme.
Exactement.
Frères et sœurs, quelle route ont-ils pris?
Alors, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, qui travaille dans l'entreprise familiale, qui a fait du foot aussi, qui était président du FC Grandson aussi, Grandson Tuileries, travaille toujours dans l'entreprise familiale, qui est maintenant investi, qui est à la municipalité de Grandson,
Oui, j'ai vu ça, c'est vrai.
et qui, j'espère, va être réélu tout prochainement. Et puis mon autre frère a commencé, il a fait du foot, hein, il a fait du foot, lui, il a fait du foot en semi-professionnel, d'abord à Xamax, puis à Yverdon Sport, et puis il avait appris maçon, et puis après il a quitté l'entreprise familiale pour faire de la récupération, il a travaillé chez un récupérateur, et puis là maintenant il a une petite entreprise de récupération, Vialat Récupération.
Qu'est-ce que c'est de la récupération?
Récupération, tout ce qui est de la ferraille, tout ce qu'on démonte et qu'on peut récupérer, un
D'accord.
récupérateur.
OK.
Et en fait, c'est un peu
Le
dans la
cuivre,
fibre
toutes ces
familiale.
choses-là, en fait, c'est ça.
Pardon?
Le cuivre, le
Voilà,
fer, comme tu
exactement, tout
disais,
ça.
qu'on peut réutiliser, puis on peut recycler, en quelque sorte, on peut dire.
Exactement,
Ouais.
exactement. Et puis en fait, c'est un peu dans la fibre familiale des Vialat parce que mon grand-père est arrivé de France, il était auvergnat, et puis en fait, il était chiffonnier charbonnier. Donc,
Magnifique.
Voilà, ils faisaient déjà de la récupération. Ils vendaient du charbon, mais ils faisaient aussi récupération de chiffon et récupération de toutes choses. Donc, ça suit la ligne familiale du
Tu
côté des
étais déjà
Vialat et on construit du côté des Béatifs. Donc, voilà.
Très verte
Oui,
avant même cette vague verte qu'on évoque régulièrement maintenant avec tout le monde qui se sent pousser des ailes écologistes, etc. Parce que, après, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais peut-être certains qui roulent avec des grosses cylindrées et puis qui votent vert et puis qui font des manifestations. Bref, il y a une conscience qui est un peu partout. Maintenant, elle reste à être appliquée plus largement
oui.
pour que notre monde survive. Mais c'est intéressant d'avoir déjà ces convictions-là et puis de faire partie d'une famille qui avait cette couleur-là.
Oui, tout à fait.
Et puis
Même que
chiffonnier.
mon frère est du parti radical de grand
C'est
sens, mais
pas grave d'être.
on est une famille plutôt radicale socialiste, disons.
Il
Voilà.
existe, ah bah, radical socialiste, un peu de droite et gauche. Il
Oui.
existe les libéraux radicaux, hein, qui ont mis un petit peu de verdure dans leur profil. Enfin
Tout à fait.
bref, il faut de tout. Il faut de tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est intéressant qu'on parle de politique parce que je voulais revenir avec toi sur ce que tu as pu traverser ces derniers temps. Avec cette crise liée à la COVID, en tant qu'infirmière, voilà, comment tu as vu ça, toi qui es baigné un peu dans ce monde politique, comment tu as compris ces décisions, comment tu comprends ces critiques, etc. J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
Ouais, par rapport à l'engagement ben, du personnel hospitalier, ben nous on a ben voilà on n'a pas eu le choix, donc on est tout de suite été sur le pont. Je dirais que ça au sein des institutions ça ouais on était très très solidaires dans les équipes. On a voilà, on avait des règles à respecter. C'est tout le monde a fait un travail incroyable sur la sécurité, sur l'hygiène hospitalière et tout ça. On était déjà baigné dedans, mais comme ça, ben voilà, on n'a jamais vécu ça. Après, ben dans la première vague, il y a peu d'infirmières et peu de personnel soignant qui ont été touchés. Parce que voilà, on sait pas tellement pourquoi. Après, ben on a énormément travaillé jusqu'à l'été. Après, ben voilà, tout le monde est un peu parti en vacances et puis voilà, la deuxième vague est arrivée. Donc ça a un peu provoqué des. On était fatigués, on était épuisés. Ben le fait que voilà, on confine tout le monde pour nous, ben c'est il fallait faire ça, hein, parce qu'autrement, nous, on n'aurait pas pu tenir, je pense.
Donc ça
Dans
faisait du sens de.
les soins, dans les hôpitaux, on n'aurait pas pu, on aurait été submergés. Même si on était bien préparé, si on avait bien géré la première vague, si on avait laissé tout ouvert, je pense qu'on aurait été débordés à l'hôpital, hein.
Ce
On
que
était
les
déjà,
gens. Oui, pardon.
on était déjà, déjà à la limite de la saturation. Dans un endroit comme où moi je travaille en rééducation, on a dû ouvrir un secteur Covid, chose qu'on n'avait pas fait la première fois. Tellement on avait de monde touché. Et puis en plus, après, ben, nous, les soignants, on a été touchés dans cette
Toi-même,
deuxième vague. Pratiquement tous les soignants ont été touchés.
ok.
Donc,
Toi-même, tu as eu la COVID?
oui, j'ai eu le Covid au mois de décembre, oui.
Et puis
Ben ça s'est
comment
bien
ça se.
passé. Probablement que je l'ai attrapé dans mon travail. Voilà, j'étais pas très bien. Et puis bon, dès qu'on avait les premiers symptômes, on se faisait tout de suite tester, hein. Donc voilà, c'était dur pendant 5 jours, vraiment. Voilà, très très mal à la tête, pas bouger au lit. Et puis après, ça a très vite passé. J'ai retrouvé le goût assez rapidement. Et puis ben j'ai fait 10 jours de quarantaine. Et puis le 11e jour, j'étais au travail parce que
Parce qu'il
c'était le mois
fallait.
de décembre. Entre les fêtes et la charge de travail, il fallait travailler.
cette grande difficulté que le grand public ou que les gens ont actuellement, c'est que ben voilà, il y a toujours cette opposition entre le libéralisme et la santé, qu'on tente à opposer toujours, mais qui devrait être ensemble. En fait, on peut pas les dissocier. Et puis, ben, les gens qui n'ont pas été touchés personnellement ou dans leur entourage ont toujours de la peine à comprendre ça. Et c'est vrai que quand je parle avec deux personnes que je connais qui ont perdu la vie avec la COVID et dans mon entourage qui ont eu aussi cette maladie et qui ont été très affaiblis, moi ça m'a bon, j'avais déjà une conscience, mais ça m'a permis de matérialiser les choses et puis de me rendre compte vraiment de la dangerosité du phénomène. Mais d'autres personnes qui sont passées vraiment complètement à côté et puis qui disent « Ouais, mais finalement, c'est pas juste. Notre conseiller fédéral, il fait n'importe quoi. » Moi, j'avais ce regard que la situation de crise avait été plutôt bien gérée par le conseil fédéral. Ton avis?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que voilà, je pense qu'ils font, ils font. Je pense que tout le monde, c'est comme pour tout, que ça soit une crise, la crise actuelle ou autre. En fait, tout le monde fait de son mieux. Tout le monde veut protéger. On veut protéger les plus faibles. On veut, voilà, c'était pas une conscience que tout le monde a, mais je pense que c'était important d'essayer de faire au mieux et d'être solidaire avec les autres. Après, c'est clair que l'histoire de la solidarité, moi, voilà, moi, j'ai travaillé presque plus que je travaille à 80%, mais je pense que l'année passée, j'ai travaillé presque à 95%. Donc, c'est clair que des gens qui ont pas travaillé, qui ont des soucis avec leur entreprise, etc. Je peux bien comprendre ça, mais je pense que de toute façon, il y a que l'histoire qui nous dira si on a bien fait ou pas, je pense.
Complètement raison.
Il y a que le regard sur l'histoire qui nous dira dans 20 ans, ben voilà, on a fait ça, on a fait faux ça, on a bien fait ça, voilà.
Mais on fait surtout comme on pense être le plus juste. Je pense que chacun essaye de, en tout cas, devrait faire au plus juste. Et puis, on ne pense pas à pénaliser l'un ou l'autre. On essaye de faire au mieux, le moins pire, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Toi, ça t'a touché donc personnellement, cette crise sanitaire, mais ça a touché aussi ton club d'Yverdon féminin. Revenons juste un petit peu en arrière sur ta carrière de joueuse de football. Tu as joué à Échallens, à Lausanne, tu as été internationale suisse, tu jouais comme défenseuse centrale et.
En équipe suisse, j'ai fait deux, trois petites apparitions, mais comme gardienne à l'époque.
Alors explique-moi comment on peut être centrale et gardienne.
Ouais, je faisais tout, moi.
Ah, c'est bien, c'est bien.
Je pouvais jouer partout.
Après, tu es présidente, après tu fais. Ouais, non, ok, je vois bien. Je vois bien. Qu'est-ce que tu as appris dans ces années-là où tu jouais à un niveau quand même qui était intéressant, j'imagine?
Moi, ce qui a toujours été quelque chose qui m'a porté vers l'avant, bah, c'est l'histoire de la reconnaissance de mon sport, la reconnaissance de permettre aux filles de faire du foot, d'être, bah, d'être copine. Je pense que c'était le plus important. Après, peut-être que si maintenant j'avais 20 ans, j'aurais une autre vision de ma carrière sportive. Bien sûr que je pense que si il y a 40 ans, j'aurais pu partir à l'étranger jouer au foot, ben j'aurais fait.
Bien sûr.
Mais voilà, c'était pas possible. Donc, ça m'a pas du tout coûté. Ça m'a pas. J'ai pas été brimée. J'ai pas été triste de pas faire une carrière internationale et tout. Mais vraiment, ben après de faire partie de la la base un petit peu de cet Yverdon sport à l'époque et qui est devenu le Yverdon féminin, ben ça après, ben ça a été aussi au centre de mes préoccupations, au centre de ma passion pour développer le sport dans ma région. Et puis après, ben le développer pour toutes les joueuses vaudoises et les joueuses romandes.
Ça fait une trentaine d'années que tu es à Yverdon, c'est juste?
Oui. Le club, il était fondé en 85. Et moi, je pense que je suis arrivée en 87, je pense.
Et
À
directement
peu
à la
près. J'ai pas
présidence.
retrouvé, on n'a pas retrouvé les dates avec les fondatrices du club, mais je pense que c'était 87 que je suis arrivée au club.
Ok. Est-ce que le foot de, si je puis dire, cette époque-là, des années 80-90, le foot féminin, hein, et le foot féminin actuel, tel que tu le connais, est-ce que tu as vu une évolution?
Ah ben c'est clair, c'est une évolution que jamais on n'aurait pu penser ça. Quand je suis arrivée au club, mon frère jouait à Yverdon Sport, il m'a dit, ah, il y a une équipe qui est féminine à Yverdon, viens voir, viens les aider. Et puis en plus, il y avait une fille qui habitait les Tuileries que je connaissais qui faisait partie de l'équipe. Et puis moi, j'arrivais à 30 ans, et puis ces jeunes, elles avaient 15-16 ans. Donc voilà, il y avait tout à faire et puis ça c'était super. Mais penser que le club serait une fois champion suisse ou gagner la Coupe suisse, c'était un rêve, c'était des délires qu'on avait quand on était à la buvette du stade ou quand on faisait nos sorties. On rêvait, on délirait comme quoi on allait gagner la Coupe suisse.
Et ça a été le cas.
Et puis un jour ça arrive. Et puis ça c'est le plus grand cadeau qui peut y arriver, d'arriver à faire des choses comme ça avec. Et d'où on est parti, il faut toujours se souvenir d'où on vient. Et puis ça c'est fantastique. Mais l'évolution, c'est vrai que je regardais encore le match l'autre soir Suisse
France.
France-Suisse, ben c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et puis voir en plus une Sandrine Moron, une Thaïs Urny être titulaire mardi, des filles qui ont commencé leur foot à Grandson, aux Tuileries de Grandson, au FC Grandson, qui ont fait leur base au Team Vaud et au FC Yverdon féminin. C'est une fierté super. Et puis ouais, c'est vraiment ouais, c'est pas mal d'émotions. Et puis mais c'est vrai que l'évolution, c'est fantastique. Après, il y a toujours, ben voilà, il y a toujours comme je pense dans la vie actuelle, et il y a toujours ce clivage un peu entre les filles et les garçons. Donc le foot des hommes et le foot des garçons, ben voilà, nous on est arrêtés. Pourquoi nous on est arrêtés? La Ligue B est arrêtée, puis la Challenge League joue.
Oui, mais finalement, le foot des filles, des femmes, c'est pas hyper important, non?
Voilà.
C'est normal.
Voilà.
J'étais en 2015, sauf erreur, c'était la Coupe du Monde féminine aux États-Unis, c'est bien juste. Est-ce que ça.
2015, oui, je pense, oui.
2015, hein, il me semble que c'était en 2015 quand j'étais aux États-Unis. Et j'ai trouvé l'engouement populaire là-bas extraordinaire. Tous les matchs étaient retransmis dans les bars, dans les restaurants. Je veux dire, parce que le sport aux États-Unis est complètement différent de ce qu'on peut le vivre en Europe. Mais c'est un engouement extraordinaire. Les gens chantaient l'hymne national, les gens connaissaient les sportives. Et maintenant, quand on voit Morgan ou Rapinoe ou d'autres, ben voilà, je suis content aussi pour elles et pour toutes les femmes qui font ce sport. D'avoir ouais, cette reconnaissance, mais qu'on voie aussi que ce sont de véritables athlètes et pas autrement. Et ça, pour moi, c'était une très belle chose. Et puis, comment dire, ouais, qu'on arrête de voir ça comme du football au rabais. Certes, c'est les mêmes règles, mais on joue des fois de manière différente parce que l'homme et la femme, ils sont. Tu m'arrêtes si je dis faux ou tu me corrigeras. Peut-être constitués différemment et puis ils absorbent différemment certains chocs, ils jouent d'une manière différente. Tu vois ça aussi comme ça?
Tout à fait, tout à fait. On fait le même sport, mais pas au niveau athlétique. Mais c'est dans tous les sports. Même la plus rapide sprinteuse du monde ne peut pas battre Usain Bolt. C'est pas possible. Donc la différence, elle est là. Mais c'est la seule différence.
Le foot féminin, il y
C'est
a peut-être
tout.
un peu moins de contact que le foot masculin, mais le gros avantage, c'est que ça pleure moins sur le terrain.
Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, ben, les
Les filles, elles
enjeux sont
contestent
autres.
beaucoup
Les enjeux
les...
sont autres au niveau financier.
Oui.
Les enjeux sont autres au niveau de l'image que véhicule le football actuel. C'est tout un, je sais pas, c'est toute l'approche qu'on a du sport, je pense. Et c'est ça, je pense qu'actuellement, il faut je ne sais pas si je le verrai un jour, hein, je sais pas, on va probablement vers le football professionnel féminin, mais vraiment, il faut vraiment se poser la question, et je pense que nous, peut-être les anciennes, on est garants de ça, on doit savoir où c'est qu'on veut aller avec le sport
Clairement.
féminin et le football féminin. Est-ce qu'on
Les
veut
instances
aller
doivent
vers
décider.
les mêmes choses que les garçons, où on veut garder quand même certaines valeurs. Et je pense que ça, il faut se poser les questions, les bonnes questions par rapport au sport professionnel.
Ce qui m'a toujours dérangé, c'est les différences qui sont faites. Parce que quand on dit c'est la Coupe du monde de football ou c'est la Coupe du monde féminine de football. Et pourquoi pas finalement dire c'est la Coupe du monde masculine de football ou la Coupe du monde féminine. Mais qu'il y ait une histoire d'égalité, pareil pour la Super League actuelle, il y a la Super League normale, homme, et la Super League féminine. Voilà, je pense qu'il y a encore effectivement un travail à faire et que vous soyez aussi reconnus, vous les sportives et les dirigeants de ces clubs, comme des athlètes à part entière et puis pas considérés. Maintenant, ton club était premier du classement, hein, bien parti pour remonter en première division, mais considéré comme amateur. Et
Tout à
c'est
fait.
complètement injuste.
Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier on est depuis 93 seulement à l'Association suisse de football. Ça fait à peine pas encore 30 ans qu'on fait partie de l'Association suisse de football. Avant, c'était la Ligue féminine suisse de féminin. L'ASF ne nous a acceptés qu'en 93. Donc maintenant, bah c'est clair, il faut se battre. Maintenant, heureusement, on a Madame Eni Tatiana qui est à la tête de ce département féminin. Mais on est toujours considéré comme amateur, même si je pense que certaines filles en Ligue A, en Ligue B s'entraînent plus que les garçons. Et jamais, jamais un footballeur d'élite. Ne ferait ce que font les filles à ce niveau-là.
Est-ce que les filles en première ou deuxième division de football suisse vivent de leur passion?
Non.
Quelle est la réalité économique pour ces
Non,
filles?
non, non, non. Alors, elles sont effrayées. En AXA Women Super League, elles sont. En guillemets, elles ont des petits contrats, elles sont effrayées. Mais dans la plupart des équipes, ces filles-là, elles sont pas professionnelles en tant que telles. Elles gagnent pas pour vivre, hein, pas du tout.
Okay. Il y a encore une grande disparité entre ce qu'on peut recevoir chez les hommes, alors même si les salaires sont pas fantastiques, on va pas parler de la Super League, mais ce qu'on peut trouver en Challenge League ou
Ah
même en
non,
Ligue
non.
Promotion ou en Première League, où des fois des garçons reçoivent plusieurs milliers de francs pour jouer et voilà
Ah non,
qui
non, 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 non. Même en AXA
parité.
Women, elles ne reçoivent pas ça. Elles sont aidées, elles sont, voilà, mais elles sont pas professionnelles, à part quelques-unes, c'est clair.
Je voyais une liste de salaire de joueuse française, sauf erreur récemment. Et une de celles qui gagnait le mieux sa vie tournait autour des 10-12 000 euros mensuels. Ben, était international, était, enfin, c'est du calibre de Wendy Renard, je crois qu'elle s'appelle, la défenseuse française. Donc voilà, c'est du top, top, top joueur, top, top, top joueuse, pardon. Mais on est à des salaires qui sont bas
Et puis, il n'y en
en
a pas beaucoup,
équivalence.
hein, comme Wendy
Exactement.
Renard, qui touche cette somme probablement.
Un sujet que je voulais développer avec toi aussi, Linda, c'est ce regard sur l'homosexualité dans le football féminin. Je ne sais pas si c'est juste comment le traiter ou l'apporter, mais je trouve qu'il y a toujours un peu ces amalgames en disant, voilà, les filles qui font du foot obligatoirement sont homosexuelles, et pourquoi les hommes finalement ne le seraient pas aussi dans leur sport. On est en train de dépasser un peu ce vieux cliché ou comment tu vois ça?
Ben, j'espère qu'on dépasse un peu, mais c'est clair que ça reste encore. Hein, ça... Ben, après aussi, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Même quelque part, c'était un endroit peut-être dans les
Où elle
années
pouvait se
70-80,
retrouver
c'était un
en
endroit où
sécurité.
de sécurité exactement, où aussi on militait d'une certaine manière, puisqu'on faisait un sport masculin, donc on voulait, voilà. Et puis après, c'était aussi être dans un endroit, ben voilà, où peut-être il y avait plus de filles homosexuelles, donc on était dans un endroit protégé, comme tu disais. Et puis voilà, mais je pense que ça s'est bien bien démocratisé. Et puis après, je dirais ça s'est démocratisé. De toute façon, il y a toujours des gens qui diront ah, moi, je ne veux pas que ma fille aille au foot parce que de toute façon, elle va devenir lesbienne si elle vient au foot. Voilà, ça existera toujours, je pense.
Bon, ces personnes ont tout compris, je
Après, je
pense.
dirais qu'actuellement, les filles qui font du foot, quelque part, on est repassé un petit peu de l'autre côté parce que maintenant, elles se montrent de plus en plus puisqu'il y a énormément de filles qui jouent à haut niveau, qui ont fait leur un 10 mètres, comme toujours on doit appeler ça.
Un coming out.
Le coming out, etc., etc. Donc, mais elles montrent, on a dû prouver, on a dû quelque part prouver dans notre sport qu'on peut être compétitif, qu'on est des super athlètes, etc. Et puis maintenant, bah, elles se montrent sur les réseaux, voilà, une Ramona Bachmann, Alisha Lehmann, bah, elles se montrent tous les jours. En vacances aux Maldives, etc., etc. Et dans tous les clubs en Angleterre aussi, voilà. Mais par exemple, dans un endroit comme la France, il n'y a pas une fille qui joue en équipe de France actuellement qui ouvertement a dit qu'elle est homosexuelle.
D'accord. Et ça ferait
Il n'y
du
en a pas
bien,
une qui
ça.
a fait entre guillemets son coming out. On le sait très bien qu'il y a des
Bien
filles
sûr, bien sûr.
qui vivent avec d'autres filles, mais il n'y en a pas une qui l'a fait. Donc c'est aussi un peu culturel, ça.
Aux États-Unis, ça se fait beaucoup plus
Exactement. Aux
facilement.
États-Unis, il n'y a aucun tabou avec ça. Voilà. Elles font du sport, voilà. Elles vivent avec une femme, elles vivent avec un homme. Alex Morgan a fait un bébé. Voilà.
Mais elles vivent, elles sont heureuses, elles vivent qui elles sont. J'ai envie
Exactement.
de dire, elles ont pas plus besoin de se cacher. Et puis c'est vrai qu'on a une tendance, peut-être maintenant, ou sur ces quelques dernières années, avec les réseaux sociaux ultra présents, où ça devient beaucoup plus positif finalement d'afficher ces, je veux dire, différences, mais
Oui,
voilà,
c'est
ces
tout à fait.
particularités où les différentes couleurs de peau aussi sont on tend à une peut-être possible égalité aussi, bien qu'il y ait encore énormément à faire, mais il y a énormément à faire, mais il y a une prise de conscience un peu générale sur les inégalités, puis de dire, voilà, bah, finalement, on peut être comme on est, qui on est, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas ci ou ça, on est comme ça finalement,
Tout
voilà.
à fait, tout à fait.
Et c'est important
Après,
que
je
ça
disais
vienne.
que par exemple, dans le club, hein, voilà, ça n'a jamais été un problème. On a côtoyé, tu côtoies tout le monde, les gens ont toujours été bienveillants, même au sein des clubs avec qui on est en très bonne harmonie au stade et tout ça. Ben, ma foi, il y a toujours les cons, hein, qui vont dire, ah, mais de toute façon, voilà. Mais on a toujours été très bien acceptés. Voilà. Je dirais qu'au départ, moi, j'étais assez vigilante avec ça en tant que présidente.
Bien sûr.
Voilà, de pas trop s'afficher, de pas trop. Voilà. Mais maintenant, je dirais que voilà, ça pose aucun problème. Et ça pose aucun problème non plus aux filles, aux autres qui en guillemets, qui ont fait leur coming out d'être hétérosexuels dans le football féminin.
Ouais, c'est vrai,
Donc,
c'est vrai, c'est vrai, on voit ça de l'autre manière.
pour ça, je trouve que pour ça, on a fait un grand pas, on a fait un grand pas dans beaucoup de choses,
Très bien.
hein. Mais c'est vrai qu'il reste encore, ben voilà, tout ce cliché. Et après aussi, ben je pense que ça vient aussi de la société et des femmes dans la société. Et je le sais par le biais de gens qui travaillent à l'Olympique lyonnais. Tout doit être codifié, par exemple, pour les filles. Elles doivent avoir les cheveux longs. Elles doivent se maquiller pour aller au match. Voilà, toutes des choses très très codifiées comme ça.
Mais pourquoi moi je me maquillais jamais pour aller jouer au foot alors?
Voilà.
J'ai manqué un passage. C'est malheureux, mais c'est vrai
Tout à fait,
que
tout à fait. Ça, c'est en train de changer, hein. Je pense que, par exemple, une Megan Rapinoe, quand elle a joué à Lyon, ben, elle n'est pas entrée dans ses codes, parce qu'elle était vraiment à
Elle
l'opposé
avait
de ça.
cheveux courts, elle
Mais
avait
quand même,
les colorés.
il y a ça. Et à Lyon, il n'y a pas une fille qui a les cheveux courts, hein, par exemple.
Ah ouais, c'est
Après, ben,
vrai.
c'est la mode aussi, des filles portent les cheveux longs, voilà. Mais quand même, ce rapport au corps, ce rapport, ben c'est comme les présentateurs sportifs parlent des femmes sportives. Voilà, c'est voilà. Des fois, ils parlent des femmes sportives en parlant de pas de sa performance. Quand un journaliste viendra me poser la question sur les performances de mes filles et pas sur des choses, ben, comme on parle là, parce que le football féminin amène toujours à ces questions de reconnaissance, etc. Et ben, on aura gagné.
Je trouvais que Lara Goute, dans Lara Goute Bérami, pardon,
Ouais.
dans sa communication avec les médias, elle a participé aussi à ce travail-là. En
Bien
disant,
sûr, bien
oui,
sûr.
elle sait que c'est une belle femme, etc., que les gens la regardent. Mais elle a dit finalement, si c'est pour parler que de ça, ou voilà, maintenant, parler de mes performances, et puis j'ai le droit aussi d'être contente ou pas, j'ai le droit de vouloir parler ou pas quand je veux. Et quand on voit les médias, ils disent, ouais, mais elle est un peu caractérielle. Elle est... Non,
Mais jamais,
elle est
jamais,
comme elle
jamais
est.
on dit ça d'un garçon. Jamais on dit ça d'un garçon. Jamais. Jamais les attaques qu'a eues Lara Goute, jamais un garçon a été attaqué pareil. Jamais.
Non,
Comme
c'est impressionnant, c'est vrai. Et même dans les commentateurs, les assistants, les reporters spéciaux, etc., qui prenaient la parole pour parler de Lara Goute Bérami, disaient oui, mais c'est pas normal, etc. Moi, je me dis, mais franchement, elle fait ce qu'elle veut, quoi, vraiment.
Mais en quoi ça regarde? Il y a même le préparateur physique de comment de Léa Sprunger
J'ai vu
qui
ça.
a ramené cette histoire-là, comme quoi c'était inadmissible le comportement qu'elle avait eu. Mais je veux dire, non, non, mais voilà, hein.
Mais elle a de compte à rendre à personne et je pense que ça, c'est une belle image qu'elle a donnée. Je pense que elle, Michaela Schifrin ou d'autres avant Lindsey Vonn ou d'autres, Voilà, elles vivent leur vie, elles font ce qu'elles veulent et c'est important.
Tout
Je
à
pense
fait, tout à fait,
que
tout
tout le
à fait.
monde
Ah non,
accepte
non,
ma foi.
c'est des grandes ambassadrices du sport féminin, ces filles, c'est vraiment, voilà. Et puis je pense que c'est ça que nos footballeuses doivent devenir, hein, des ambassadrices, des athlètes qui, voilà, malheureusement, Lara Liikanen va arrêter le foot, mais elle, vraiment aussi, elle était une grande ambassadrice du sport féminin, vraiment, dans notre pays. Mais voilà. Il y a encore à lutter.
Effectivement, il y a toujours à lutter. Yverdon féminin, cette fin de saison, il va se passer quoi? Vous avez une chance de terminer votre saison et de monter en Super League ou à quelle sauce vous allez être mangé?
Ben, on espère, ben, disons, la porte s'est entrouverte pour la reprise des entraînements, mais on n'est encore pas fixé sur si la Ligue B pourra reprendre. Donc, on attend demain parce que pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Par contre, la seule chose qui est officielle, c'est que maintenant, on pourrait être mis sur le même échelon que la Promotion League et la Première League. Donc,
D'accord.
bah, probablement qu'on va pouvoir commencer à s'entraîner. Mais c'est encore pas décidé, hein, c'est encore pas officiel. Les installations des villes sont pas encore ouvertes. Donc, nous, on s'est entraînés, se sont entraînés en individuel, se sont entraînés en petits groupes. Voilà, ils ont quand même commencé à toucher le ballon là depuis 3 semaines. Donc, mais en petit groupe à l'extérieur du stade, sans vestiaire. Donc, voilà.
Si la saison ne devait pas reprendre, il se passerait quoi pour Yverdon féminin? Vous seriez quand même promu ou c'est une saison
Si ça
blanche de
devait pas
nouveau?
reprendre maintenant,
Oui.
on serait pas promu.
D'accord.
Puisque le nouveau règlement qui a été voté cet été à cause de la pandémie, c'est que la moitié du championnat doit être jouée pour valider le championnat ou autrement c'est une saison blanche.
Mais par exemple, pour les garçons, pour...
C'est la même chose. La même chose.
D'accord, ok. Il me semblait que pour Yverdon Sport, il y avait encore une possibilité de faire des barrages ou d'être...
Exactement, il y aurait un match de barrage. Il y aurait un match de barrage. Mais
Mais ils doivent
voilà.
aller au bout. Mais visiblement, pour eux, probablement, ils pourraient, la Première Ligue et la Première Ligue Promotion, enfin, en tout cas, la Première Ligue Promotion pourrait reprendre et peut-être aller au bout de ce qu'ils ont commencé. Une question sûrement qui fâche, mais pourquoi ces deux entités différentes? Pourquoi ce n'est pas un club en entier? À
À
Yverdon.
Yverdon Sport?
À Yverdon.
Ah, parce que à l'époque, quand Yverdon Sport est devenu une SA, avec mon ami
Mario.
Pierre-André Cornu,
Ok.
on a séparé la SA de la base.
D'accord.
Donc, on est devenu l'association Yverdon Sport Junior Féminine. Donc, l'ASA est restée avec l'élite et nous, ils nous ont séparés avec les juniors pour protéger, entre guillemets, les juniors et les féminines si l'ASA
Fait
devait…
faillite.
voilà. Et puis, ben, nous, on a fait une année comme ça avec les juniors. Puis, en fait, à l'époque aussi, en 2007, un peu l'ASF avait un peu des velléités d'indépendance par rapport à leur club féminin. Donc, ils ne nous poussaient pas, mais ils se posaient des questions, savoir si, pourquoi pas fonder des clubs féminins. Donc, nous, on l'a fait. Une année après, on a déposé notre candidature comme club féminin et on est devenu le FC Yverdon féminin en 2007. Mais c'est clair que maintenant, ben bien sûr, il y a une nouvelle structure au stade. Ben voilà, on se pose des questions par rapport à refaire cette grande identité sous un seul nom.
Vous pouvez
On y
bénéficier aussi
pense, bien sûr
de...
qu'on y pense. En plus, on y pense aussi, je dirais, ben, en tant qu'image pour Yverdon
Bien
Sport. Si
sûr.
Yverdon Sport va ben, en Challenge League, si nous, on va en AXA Women Super League. Donc, voilà, pourquoi voilà, avoir les mêmes bases pour travailler aussi. Et puis, ben, je dirais aussi au niveau de l'argent, hein, il n'y a pas de miracle.
Bien sûr.
D'ailleurs, tous les grands clubs, en guillemets, les grands clubs féminins sont devenus, voilà, le FC Berne est devenu le BFC Young Boys Frauen, Bâle s'est rapproché de FC Bâle,
Le
toutes ces
chinois qui est devenu
entités qui étaient,
Servette.
en guillemets, des sous-sections sont devenues, voilà. Mais tant qu'on n'obligera pas les clubs à avoir des équipes féminines, oui, en Super League, on aura encore une petite chance d'y être.
Est-ce que vous pouvez bénéficier, Yverdon, des mêmes structures que les garçons
Pour
ou il y a des
l'instant, on a
différences?
exactement les mêmes structures. On a
Les mêmes
le stade, on
vestiaires,
a les mêmes
les...
terrains, on a les mêmes. Par rapport à ça, je dirais que la commune d'Yverdon, Yverdon Sport et nous, on travaille ensemble et puis on est vraiment sur le même pied d'égalité. Vraiment, pour ça, c'est super. Après, on a prouvé, on a beaucoup prouvé, hein. Mais pour ça, c'est vraiment, on est considéré vraiment par la commune, vraiment à la même hauteur qu'un club comme Yverdon Sport. Après, ben, au niveau de l'argent, c'est clair que. Mais au niveau du sport en lui-même, on est vraiment à la même hauteur qu'Yverdon Sport.
Bon, ça, c'est déjà une très bonne chose. Je vais revenir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Tu m'as parlé au tout début de notre entretien sur les voyages que tu aimais faire. Pourquoi Linda est-elle allée dans ce pays? C'est Israël. J'ai lu que tu étais allée en Israël.
Alors, j'avais beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est. J'ai fait
Tu as fait le Transsibérien?
ouais, j'ai fait le Transsibérien, j'ai été au Japon, j'étais en Transsibérien au Japon. J'avais fait un premier voyage de 9 mois, un deuxième voyage de 5 mois. Et puis après, bah, j'ai continué malgré mon métier, malgré le foot. J'ai continué à régulièrement partir en voyage. Je suis allée en Iran, je suis allée. Voilà. Et puis Israël.
T'es
Voilà,
pas allé à
j'ai
la
jamais.
plage par dans ces
Pardon.
destinations-là. C'était pas pour la plage.
Ah, pas du tout. Ah, non, non, non. C'était vraiment aller à Jérusalem. Vraiment. Voilà.
Et
Aller à
puis le
Jérusalem.
Japon, tu disais tout à l'heure le Japon, c'est une ouais, c'est une très belle destination aussi. Qu'est-ce que t'as ressenti là-bas? Mais pareil qu'à Jérusalem, qu'est-ce que tu as ressenti en Iran? Voilà, c'est des pays qui sont particuliers, peut-être différents de ce qu'on connaît nous en Suisse.
Ben c'est clair, en plus c'était il y a longtemps, hein. C'est en 81. Donc
D'accord.
on avait décidé d'aller au Japon sans prendre l'avion. Donc on était 3 amis et puis on est parti en train. Et puis bon, on a fait, à l'époque, ben, la Russie était fermée, donc on avait dû faire un plan de voyage pendant 3 semaines, dire où on allait, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Puis de toute façon, ils venaient nous chercher à la gare, voilà, ils nous
Je crois
coachaient.
que ça n'a
Et
pas
puis on
beaucoup
avait.
changé en Russie, hein. Tu dois toujours donner, montrer patte blanche et puis dire ce que tu fais le matin, l'après-midi, hein.
D'accord, bon. Alors,
Ils sont toujours très
voilà.
ouverts.
Donc voilà, puis on avait décidé d'aller ben, jusqu'à l'autre bout de l'URSS, prendre le bateau, puis aller au Japon. Alors c'est sûr, quand tu viens de 3 semaines et demie de Russie, entre guillemets, communiste, et puis que tu débarques à Yokohama un matin, alors c'est clair, c'est extraordinaire. C'est un pays, ouais, c'est un pays fascinant. La foule, le monde,
À Shibuya.
les anciennes lumineuses, et puis toute cette tradition, voilà.
Qu'est-ce que tu te dis quand on sait que le Japon, la population du Japon, devrait s'éteindre dans moins d'une centaine d'années? Le Japon ne devrait plus exister. C'est quand même dramatique, hein, qu'une nation, une population s'éteigne comme ça, alors que c'est une nation qui est hyper riche.
C'est difficile à comprendre, c'est difficile à imaginer. Hein. Après, c'est une île, hein, c'est très particulier quand même, un pays sur une île. Je pense que voilà, nous on peut pas ressentir ça.
On a un peu une île en Europe, nous aussi, non?
Ouais.
C'est pas pareil.
Et on peut dire que chaque pays est une île sur cette terre,
C'est
hein.
vrai.
Le monde terrestre est une île sur l'eau,
Exactement.
sur cette terre. Mais je dirais que ben, moi, à l'époque, moi, j'étais jeune, en plus, hein, j'avais 23 ans. Ben voilà, tu as les yeux grands ouverts, tu découvres les rizières, tu découvres Tokyo. Tu découvres les traditions aussi dans les temples, ça c'est fascinant. Mais comme ça, j'étais plus marquée, je dirais que en repensant à la. Hier soir, il y avait un ami qui travaillait avec moi, qui commandait des sushis par Internet pour pour sa soirée. Et puis je lui dis, mais moi j'étais 3 semaines au Japon en 1981, j'ai jamais mangé un sushi. Et voilà, on mangeait des petites guinguettes, des petites nouilles, et puis parce qu'en fait, en plus, c'était cher. Et puis le sushi, c'était vraiment la gastronomie japonaise. Et puis maintenant toute l'Europe, tout le monde entier mange des sushis, pardon.
Mais c'est drôle parce que j'y suis allé en 2008 ou 2009 au Japon pour la première fois. Et c'est vrai que les sushis n'existent quasi pas. Ils les font pour le reste du monde. Mais
Tout
eux
à fait, tout à
ne
fait.
consomment pas ça au restaurant. Il faut vraiment insister pour qu'ils te fassent quelque chose comme ça. Mais tu manges plutôt. Alors moi, je trouvais très drôle, c'est que c'était très souvent du poisson fumé le matin. Et poissons
Ouais.
crus le soir. Et
Ouais.
enfin voilà, il y avait toutes des manières différentes, mais j'ai trouvé aussi une population très polie et très respectueuse, très.
Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, cette manière de se saluer. Voilà, nous on logeait dans les auberges jeunesse à l'époque. Ça coûtait pas très cher,
Bien
donc on
sûr.
était dans les auberges jeunesse. On mangeait le riz le matin avec les algues, voilà.
Et des
C'était
paysages assez
vraiment.
proches de la Suisse, j'avais trouvé.
Certains endroits, oui, tout à fait, tout à fait. Après, les rizières, quand même, ça
Bon,
c'est facile.
on est d'accord.
Première fois que je voyais des rizières, donc voilà. Après, un pays qui est encore plus fascinant, et je pense que c'est l'endroit peut-être où je retournerai, c'est l'Inde. Je suis allé
D'accord.
2 fois en Inde, donc voilà. Ça, c'est
Qu'est-ce
autre chose.
qui t'a plu là-bas?
Je sais pas, c'est viscéral, l'Inde. Voilà, ça, il n'y a jamais de calme, il n'y a jamais de. Ça, c'est fascinant, hein, cette population. Bon, je suis allé en 84, et puis après, je suis retourné en 2004. Pour fêter les 20 ans du voyage. Donc, je sais
Donc
pas,
tu y
c'est
vas dans 3 ans, hein, de toute façon.
toute cette ambiance, cette chaleur, cette foule. Prendre un train, c'est toute une. Pour prendre un train, prendre un bus, c'est toute une histoire. Et puis, je sais pas, je pense que il y a des endroits où tu te sens bien. Pas toujours rassuré, hein, ça c'est sûr, parce que c'est pas du tout rassurant l'Inde, hein, c'est pas
Bah,
du tout un endroit.
pour les femmes, je trouvais
Ouais, c'est pas du
justement,
tout.
que c'est pas forcément le pays qui est le plus adéquat.
Non, 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 mais jamais eu de problème, jamais eu de problème, toujours vraiment super, quoi. Vraiment, puis, ouais, c'est l'ambiance, c'est toute cette. Je sais pas comment dire, c'est difficile d'expliquer.
Non, mais souvent ces pays-là, il faut les découvrir pour
Faut
les
aller
comprendre. Parce
voir,
que
ouais, faut aller
c'est pas en regardant
ressentir.
à la télévision qu'on arrive à s'imaginer. Il y a des odeurs, il y a des températures, des couleurs, des choses qui sont uniques et qu'on trouvera jamais. On ne peut pas trouver d'équivalence ici. Si tu restes à Grandson ou à Lausanne, tu peux pas. Il faut. Voilà,
Ah ouais.
pour aimer le monde, il faut le découvrir. Et puis, il faut voyager, et ça, je trouve fantastique. L'Israël, alors, comment c'est venu l'Israël?
Toujours eu envie d'aller à Jérusalem.
D'accord.
Après, ben, toute l'histoire du monde, je pense, entre les musulmans, les chrétiens, les juifs, toute cette fascination
Une plaque
aussi
tournante
de
là-dessus.
l'histoire du monde. Et c'est un endroit très fascinant. J'entendais justement hier à la radio, il y avait une histoire, il y avait une émission sur le mur des Lamentations. Très
Oui,
intéressant.
oui.
C'est compliqué quand même. En tant que citoyen du monde, humaniste, et tout ça, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, Israël, c'est clair. Ça, tu ressens très, très fort. Hein. Très, 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 très fort.
Après, mon regard, c'est que les gens qui vivent, le peuple, aimeraient que ça soit différent.
Ah ouais, tout à fait.
Après, les politiques, on retombe là-dessus, c'est vraiment des histoires politiques, et les courants religieux sont des prétextes à imposer telle ou telle politique, parce que les gens, ils n'ont pas envie de se reprendre une bombe ou une roquette, ou ils préféreraient pouvoir passer d'un coin à l'autre, etc., et puis vivre en harmonie. Je pense que tout le monde aimerait le vivre. Donc voilà, il faut que chacun fasse. Mais Israël est tellement chargé historiquement, comme tu
Ah
dis,
non, tout à fait, tout à
et
fait.
c'est
Et ça, je
compliqué.
pense, c'est le plus incompréhensible. Tu vas au musée de la Shoah, voilà, toute cette quand même, nous, on est une génération qui a été marquée par la guerre, mais par
Clairement.
l'histoire de la guerre, pas par la guerre d'avoir vécu, mais vraiment l'histoire de la guerre, l'histoire du génocide, etc. Et puis d'aller au musée de la Shoah et après d'aller à Bethléem, par exemple, de passer le mur. Tu dis, mais comment ce pays peut avoir vécu ce qu'ils ont vécu
Et
et
vivre de
faire
cette
vivre
manière-là.
ça aux Palestiniens? C'est pas possible.
Ouais, c'est une histoire qui va pas se refermer
Ah non, 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 non,
aujourd'hui
non.
lors de notre conversation, mais qui est très particulière,
Et ça, c'est
effectivement,
intéressant, intéressant
clairement.
d'aller voir quand même. Et puis tu voilà. Et puis c'est clair que tu te balades dans le quartier juif, en fait, de la vieille ville de Jérusalem. Mais en fait, t'as qu'une envie, c'est d'aller chez les musulmans parce que c'est plus vivant, il y a les marchés, c'est plus sympa. Après ça, je pense que c'est un peu. Moi, j'aime l'Orient, voilà. Même si leur culture peut-être est pas toujours très ouverte pour les femmes, mais on va aussi lutter en tant qu'européenne pour la libération des femmes musulmanes.
Quel est le pays ou l'endroit qui t'a le plus marqué dans ta vie?
Quand tu es jeune, premier voyage, la Grèce, hein, par exemple.
D'accord.
Premier voyage, tu prends le train à Lausanne et puis tu arrives à Athènes 36 heures plus tard. Tu montes dans le bateau, tu vas sur les îles. Ça, fantastique, la Grèce, fantastique. Voilà, ça, c'est aussi les. Après, c'est aussi. Je pense que les voyages, c'est aussi lié aux périodes de ta vie, voilà, à ce que tu vis dans ta vie, hein. Donc, toutes ces sensations d'être en voyage, d'être libre, d'être amoureuse, d'être voilà.
Est-ce qu'il y a un endroit
Donc,
que tu n'as pas pu voir et que tu aimerais encore visiter? Un endroit qui tu te dis, voilà, c'est sur ma liste, il faut que je le fasse.
la Mongolie.
D'accord.
Et puis, je suis jamais allée en Chine. Je suis allée qu'à Hong Kong et Taipei, mais jamais en Chine.
Ok, donc toujours de ce côté-là du monde,
Ah
plutôt
oui.
l'Asie.
J'ai été que deux fois de l'autre côté. Une fois à New York. Ah ouais, New York, je retournerai peut-être à New York. Ouais. Ça,
C'est fantastique, New
c'est une
York.
ville magnifique, fantastique.
Une
Ben voilà,
énergie incroyable.
comme je les aime, hein, multiculturel, voilà. Et une fois en Guadeloupe. Mais autrement, je suis jamais allée de l'autre côté. Toujours, je suis toujours attirée là-bas. Du côté de l'asile.
Je fais une petite parenthèse parce que tu parlais de New York, et j'ai une pensée pour ma grand-maman qui m'a quitté il y a quelques années de ça et avec qui j'étais allé quand elle avait 8 ans de 3 ans, sauf erreur, à New York pour la première fois et elle était émerveillée. J'ai toujours un souvenir magnifique
Ah, super,
de
super.
elle. Ouais, parce qu'elle avait connu quelques pays, la Russie, l'Argentine, mais une ville comme New York, elle avait jamais vu ça. Et c'était impressionnant parce que j'avais l'impression de retrouver presque une adolescente qui découvrait toutes les choses. Et c'était un magnifique souvenir. Et je trouve que c'est, ouais, effectivement, c'est une ville particulière.
Mais ça, tu parles de quelqu'un qui a 8 ans, 3 ans, ou toi, tu es un petit peu moins que moi, moi j'en ai 62. Ça change pas l'émerveillement et l'envie de faire les choses.
Je suis
La seule
d'accord.
chose qui change, c'est la résistance à l'effort, la résistance de prendre le bus à Calcutta, puis de faire 200 km, puis que tu en as pour 12 heures de bus. C'est ça qui change, mais autrement, l'envie
La
d'y aller,
récupération après aussi, hein, de se dire, ouais.
d'être émerveillé des choses que tu vois, ça reste. Et puis mais c'est la même chose qu'au foot. C'est la même chose qu'au foot. Moi, si mon corps disait oui, moi, je jouerais encore.
J'imagine.
J'ai qu'une envie, c'est aller sur le terrain, toucher le ballon, faire des passes, faire des têtes. Voilà.
Ah, t'es
Ça
fantastique.
reste très, très fort, très, très fort. Ça ne part jamais. Je pense même que je serais sur mon lit de mort, vite encore, allez, vite, vite, toucher un petit peu le ballon au
Allez,
bord là, du terrain.
encore une
Ça
fois.
ne part pas, ça.
Est-ce que dans toute cette vie qui est hyper chargée, présidente, infirmière, etc., tu voyages tout le temps, est-ce que tu as le temps de... Alors, j'aime bien demander à mes invités si regardent quelque chose à la télévision. Alors, beaucoup aiment regarder les plateformes de streaming et ont une série ou un film particulier ou un morceau de musique. Toi, qu'est-ce qui te parle ou qu'est-ce qui te définirait si on parlait en tant que musique et film?
Moi, je suis une enfant de la télé, hein. Donc la télé, je regarde des séries, je regarde des films, des documentaires, toutes sortes de choses. J'adore le cinéma, malheureusement. Mais voilà, on espère bientôt pouvoir retourner au cinéma.
Le dernier
J'aime le
film que tu as vu?
théâtre, j'aime la danse. Je vais chaque année au Ballet Béjart,
Wow.
parce que dans une autre vie, j'ai fait 2 ans de danse classique. Donc voilà. En plus, donc tu vois. Donc
Linda, quel est le dernier film que tu as vu avant la fermeture des cinémas? Est-ce que
fou là
tu
là.
t'en rappelles? Est-ce que tu vas toutes les semaines au cinéma?
Ouais, j'essaye d'aller toutes les semaines, ouais. Mais
Wow.
j'ai avec le foot et comme ça, j'arrive. Avec le travail, j'arrive pas toujours. Mais j'aime bien aller ouais, très très régulièrement au cinéma. Mais voilà, ça me vient pas à l'esprit parce que ça fait longtemps. Donc,
Mais tu regardes de tout ou il y a des films que... Voilà, je ne sais
bah,
pas.
disons les grands Ghostbusters, comment on appelle ça, les
Blockbuster.
grands.
Blockbuster.
Voilà, ouais, ça, à part Star Wars ou James Bond, voilà. J'ai un peu de peine. J'aime plutôt quand même du cinéma style ciné-club quand même. Je vais beaucoup au ciné-club à Orbe. Il y a un très très bon ciné-club à Orbe. Et j'aime quand même bien des films un peu plus niche comme ça aussi qui parlent du monde, qui parlent du monde, qui parlent d'autres endroits, qui parlent.
Qui te font voyager aussi.
Voilà, exactement aussi. Autrement, la musique, moi j'aime toutes sortes de musique. J'aime bien. Voilà, moi j'aime bien la chanson française. Après, ben toutes les nouvelles tendances, là, moi j'aime beaucoup. J'ai de la peine à être au niveau de la musique, être nostalgique comme ça. J'aime bien être dans mon temps.
Ouais.
J'écoute, voilà, j'étais une grande fan de pop musique, j'ai tenu tous les concerts suisses, Nyon, etc. Donc voilà, je suis de cette génération-là. Donc j'ai voilà, j'ai vu, j'ai Ouais, les grands concerts dans les stades, j'ai vu Michael Jackson à Lausanne, Dire Straits, je sais pas combien de fois.
On y retournera, tu penses, au cinéma et au concert?
Oui.
T'es confiante?
Oui, je suis très confiante. Et
C'est...
puis après, je vois pas ça comme une punition. Voilà, c'est un état actuel. Et puis malgré tout, on ne dis, dans nos pays, on ne discute que de si on peut aller au cinéma ou au théâtre. Mais dans d'autres pays, ben c'est simplement la parole qui est pas possible pour une femme, par exemple. Donc on guillemets nos petits problèmes de pas pouvoir aller au cinéma ou au théâtre ou voilà.
Sur l'échelle du monde, ils sont un
Il y
peu
a
ridicules.
d'autres à l'échelle du monde, exactement, il y a d'autres libertés qui sont bien plus
Bafoués, on pourrait dire.
exactement. Et puis qui sont bien plus tristes, voilà.
J'avais
Donc.
envie de terminer sur une note positive, mais c'est pas du tout
Ah non,
le cas, mais c'est la réalité. Et je te remercie d'avoir partagé ça. On arrive un peu à la fin de notre entretien. Je demande à tous mes invités qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter pour la suite dans leur vie personnelle, professionnelle, etc.
moi je voilà j'essaye de faire que chaque jour soit bien, soit qu'il y ait toujours un petit moment de bien-être. Et puis je dirais que ben voilà, j'arrive gentiment à l'âge où il faudra arrêter de travailler. Et puis mais j'essaye de vivre le présent. Je pense que c'est le plus important, c'est vivre le présent. Se souvenir des belles choses, et puis vivre le présent à fond, quoi.
On va en rester là sur ces phrases magnifiques. Pour vous, chères auditrices et auditeurs, vous savez où nous retrouver chaque dimanche sur On s'en fout, sur tous les vecteurs. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, On s'en fout, Spotify, encore Google Podcast et j'en passe. Bientôt, tous nos entretiens filmés seront disponibles sur une chaîne YouTube consacrée à ces entretiens. Prenez toutes et tous bien soin de vous et à très bientôt.